Victoire des féministes par Jacqueline Ngrave, présidente de Femmes Solidaires. Et j'en profite pour lui souhaiter une bonne fête.
Merci beaucoup, Odile. Merci beaucoup. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre récit. Les féministes de la première vague. La première vague, c'est la lutte pour les droits civiques, pour la participation à la vie publique au XIXe siècle, début du XXe siècle, et les prémices au XVIIIe siècle. Un petit rappel en forme de transition entre le quatrième épisode, les femmes sorcières, et l'épisode d'aujourd'hui, les prémices des féministes de la première vague. Pendant toute cette période terrible de chasse aux sorcières que nous avons vue le 4 décembre au cours des 15e, 16e et début 17e siècle, ce féminicide de masse envers les femmes du peuple, d'autres femmes résistent dans les classes sociales privilégiées. Elles gouvernent, elles écrivent, ce sont les reines, les maîtresses royales, les écrivaines, les poétesses. Titiou Lecoq, dans son livre « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », édition L'Iconoclaste 2021, un livre maintes fois évoqué, Titiou Lecoq cite Isabeau de Bavière, Anne de France, Anne de Bretagne, Louise de Savoie, Catherine de Médicis parmi les reines. Les maîtresses royales, elles, jouent le rôle d'éminence grise. Une éminence grise, c'est un conseiller ou une conseillère occulte, c'est-à-dire cachée, qui agit dans l'ombre d'une personnalité connue, telle par exemple Agnès Sorel auprès de Charles VII, Diane de Poitiers auprès de Henri II ou Gabrielle d'Estrées auprès de Henri IV. Elles sont si influentes qu'on peut dire qu'elles font office de première ministre. Cependant, Simone de Beauvoir fait remarquer que, je la cite, « animatrice, conseillère, intrigante, c'est d'une manière oblique que les femmes s'assurent le rôle le plus efficace, c'est-à-dire en contournant la discrimination de genre liée à leur sexe. » Quant aux écrivaines et poétesses, nous en avons présenté plusieurs dans les émissions consacrées aux portraits de femmes de notre matrimoine depuis 2021 sur cette antenne. Ce sont par exemple Louise Labbé, la poétesse lyonnaise, Marie de Gournay, Marguerite de Valois, toutes plus ou moins négligées ou méprisées par les historiens hommes, en dépit de leur talent, comme cela a déjà été souligné. Nous en arrivons donc aux féministes du XVIIIe siècle, le siècle de la Révolution française de 1789. La période de la Révolution constitue un moment particulier dans l'histoire de l'accès des femmes aux droits politiques. Bien qu'ayant participé aux événements de façon massive et été reconnue dès 1789 membre de la nation et citoyenne, elles sont exclues du droit de vote et de l'éligibilité. On pense évidemment à Olympe de Gouges et aux 17 articles de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, se voulant symétrique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui ne concernait que les hommes. Se reporter là encore au portrait fait ici même le tout premier en 2021. Mais il y eut à cette époque révolutionnaire beaucoup d'autres femmes pour réclamer les droits civiques, la citoyenneté active, le droit de citer, comme l'appelle le marquis de Condorcet, un des rares hommes féministes, c'est-à-dire le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Le 3 juillet 1790, il publie dans le journal de la Société de 1789 un article intitulé sur l'admission des femmes au droit de citer. Il estime que les femmes qui jouissent comme les hommes du droit de citer doivent avoir leurs entrées dans toutes les assemblées de la commune et même dans celles de la nation constituante ou législative. Ces idées ne trouvent guère d'écho parmi les révolutionnaires, mais ce sera le cheval de bataille des féministes de la première vague au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Rappelons que le 10 août 1792, la prise du palais des Tuileries par les révolutionnaires entraîne la chute de la royauté, aussitôt suivie d'une avancée démocratique majeure, la fin de la distinction entre citoyenneté active, ceux qui ont le droit de voter, et citoyenneté passive, ceux qui n'ont pas le droit de voter. Mais les femmes, de toute façon, ne sont pas prévues dans cette réforme. Les révolutionnaires les écartent car ils distinguent la citoyenneté civile de la citoyenneté politique. Pour eux, les femmes ont un rôle civil, éducatif, celui de former les futurs citoyens, d'inculquer aux enfants garçons les valeurs républicaines d'égalité, de liberté, aux enfants filles de valoriser la famille, la conjugalité et le rôle protecteur du mari. Les femmes restent donc des citoyennes passives, comme le sont les enfants, les pauvres, les fous et les étrangers. Ainsi est créée de fait la catégorie des citoyennes sans citoyenneté, selon la formule de l'historienne Dominique Godinot, reprise par Yannick Ripa dans « Histoire féminine de la France », édition Belin 2020. Alors, pendant la Révolution, les féministes tentent de s'organiser pour obtenir leurs droits civiques. On passe du féminisme d'opinion, du féminisme individuel, vu précédemment dans les épisodes précédents, au féminisme d'action, dans les nombreux salons et clubs de femmes où se réunissent les femmes pour mener une action collective. Ce sont là les prémices des féministes de la première vague. Des femmes plus actives, militantes, politisées apparaissent. Elles s'expriment dans les 56 clubs qui se créent à leur initiative, plus d'ailleurs en province qu'à Paris. Le premier club à Paris fut fondé par Etta Palme, mais il eut peu de succès. Et bien des villes eurent leur club de femmes. Il s'appelait « Citoyennes amies de la Constitution » ou « Amies de la liberté et de l'égalité », par exemple. Le club de femmes le plus important par son activité politique, comme par les réactions qu'il suscita, fut sans doute la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires, fondée à Paris le 1er mai 1793 par Claire Lacombe et Pauline Léon. Elles se sont connues au Club des Cordeliers, un club révolutionnaire de vigilance qui admettait la présence des femmes. Claire Lacombe est une comédienne et Pauline Léon est une active militante artisane chocolatière. Elles se placent au cœur de l'actualité de ce moment historique. Leur militantisme collectif se veut exclusivement féminin. L'ambition est de former une société, on dirait aujourd'hui une association, où seules les femmes seront admises et où les hommes seront autorisés à siéger en spectateurs. Le but est de délibérer sur les moyens de déjouer les projets des ennemis de la République. Bien sous-entendu, les ennemis de l'intérieur, les royalistes, les anti-républicains, comme de l'extérieur, les royautés qui encerclent la France républicaine et craignent la contagion des idées nouvelles. Ces citoyennes veulent clairement orienter la Révolution. Elles se rallient avec ardeur à la cause de la liberté. Le règlement stipule que la société a pour objet de s'armer pour concourir à la défense de la patrie. Les citoyennes sont néanmoins libres de s'armer ou de ne pas s'armer. On ne les oblige pas à s'armer. Plus ou moins engagées, ces militantes, connues ou non, sont mues par la ferme volonté soit d'obtenir la pleine citoyenneté, la citoyenneté active, comme on l'a vu, soit d'agir en citoyenne malgré tout. Bref, toutes ces femmes tentent de contrer les interdits, la discrimination de genre et la passivité attribuée à leur sexe. Mais bientôt, les clubs féminins éparpillés, qui ne se sont pas fédérés pour une plus grande efficacité politique, fusionnent pour la plupart avec les clubs masculins et sont absorbés par eux. Finalement, au nom du comité de sûreté générale, le 9 Brumaire en deux de la République. Brumaire, c'est le calendrier républicain de l'époque et cela correspond au mois d'octobre, c'est-à-dire le 9 Brumaire en deux, c'est le 30 octobre 1793. La Convention prononce la dissolution des sociétés féminines sous prétexte qu'elles troublent l'ordre public par leurs manifestations et que les femmes seraient impropres à la vie publique au nom de leur nature même et de la préservation des bonnes mœurs. Ces clubs où des femmes faisaient leur apprentissage politique sont fermés alors que ceux des hommes restent ouverts. C'est là une discrimination flagrante. Il s'agit en fait d'empêcher les femmes d'avoir un usage politique de l'espace public. Simone de Beauvoir cite ces mots du procureur Chaumette. J'ouvre les guillemets. « Depuis quand est-il permis aux femmes d'abjurer leur sexe, de se faire homme ? La nature a dit à la femme « Sois femme ». Les soins de l'enfance, les détails du ménage, les diverses inquiétudes de la maternité, voilà tes travaux. Déjà, le 30 avril 1793, un décret avait exclu les femmes du service militaire, alors que de nombreuses femmes étaient engagées dans la lutte armée pour défendre la patrie et la révolution. La révolution des idées, la révolution sociale. Parce que la révolution avait apporté des avancées importantes dans la vie quotidienne des femmes. En 1790, on a supprimé le droit d'aînesse et le privilège de la masculinité. Les filles peuvent hériter comme les garçons. En 1792, une loi crée le divorce, détendant la rigueur des liens matrimoniaux. Les femmes peuvent donc se marier librement, divorcer, hériter. C'est bien, mais ce ne furent là que de minces conquêtes, nous dit Simone de Beauvoir. En vérité, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 se lie bel et bien exclusivement au masculin. Contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là et même au plus haut niveau, le masculin ne vaut pas un neutre en grammaire. Le masculin est un masculin, assène Eliane Viennot, la grande spécialiste en la matière. Les femmes restent des citoyennes sans citoyenneté, selon l'expression précitée. Tous les efforts, toutes les actions des féministes courageuses et déterminées ont échoué à changer cette situation inégalitaire, à faire d'elles des citoyennes à part entière, actives. Cela à cause de la réaction antiféministe constante des hommes au pouvoir qui veulent imposer la complète restauration de la puissance masculine. Tel par exemple Sylvain Maréchal, Maréchal comme ça se prononce, comme un maréchal ferrant, un libre penseur. Il propose en 1800 d'interdire purement et simplement l'apprentissage de la lecture aux femmes en raison de leur nature. Selon la nature avec un grand N au sens rousseauiste du terme, les femmes s'honoreraient de tenir dans leurs mains non pas un livre ou une plume, mais bien une quenouille ou un fuseau. On dirait aujourd'hui des aiguilles à tricoter, par exemple. Cela implique, selon lui, de les maintenir dans l'ignorance. En outre, il faut le dire, la passivité, pour ne pas dire la complicité de la majorité des femmes avec leurs hommes, à quelques exceptions près, notamment des femmes de lettres, est aussi responsable de la situation générale faite aux femmes. Et pourtant, à une époque de grande régression de la place des femmes après la Révolution au XIXe siècle, des féministes se battent. Nous en citerons une, Pauline Roland. Après la pause musicale qui arrive maintenant, restez à l'écoute, nous revenons dans 2 minutes et nous écoutons un extrait de la petite musique de nuit de Mozart. À tout à l'heure. À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le contexte politique et social dans lequel se sont débattues les femmes en général et les féministes en particulier leur est très défavorable. Pourquoi ? Tout d'abord, le militaire au pouvoir, Napoléon Bonaparte, va inspirer un document fondamental qui va régir pendant très longtemps la vie des Français et des Françaises, le Code civil, qu'on appellera plus tard le Code napoléonien. Un recueil de 36 lois promulguées en 1804. Reflet des conceptions misogynes de Napoléon, il a heureusement été modifié sur de nombreux points depuis son origine sous la pression des féministes et des progressistes. Mais il a été appliqué pendant tout le XIXe siècle, son influence s'est exercée pendant tout le XXe siècle et elle perdure encore dans les mentalités aujourd'hui, y compris dans notre système judiciaire. Ce code civil fait de la femme une mineure éternelle, une mineure à vie, au sens juridique du terme. Il officialise son incapacité civique. La domination masculine et les valeurs viriles qui vont avec sont affirmées fortement, institutionnalisées. La soumission féminine à l'homme est la règle de base du fonctionnement de la société dans la famille, c'est-à-dire dans la vie privée, comme dans la vie publique. L'infériorisation des femmes est gravée dans le marbre, selon une expression actuelle. Alors que disait ce code, grosso modo ? Le code dit que la femme doit obéissance à son mari. Le code dit que c'est l'homme qui fixe le lieu du domicile conjugal, la femme le suit. C'est souvent le cas encore de nos jours, même chez de nombreux jeunes couples qui font le choix, entre guillemets, de faciliter la vie professionnelle du mari au détriment de celle de la femme. Le code interdit la recherche de la paternité. Laissons les géniteurs tranquilles. Son fameux article 324 précise, je le cite, dans le cas d'adultère de la femme, le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. C'est un véritable permis de tuer sa femme accordé au mari. Légalement, l'article 324 ne sera modifié qu'en 1975. Deuxième moitié du XXe siècle, que beaucoup d'entre nous ont connu. Mais de nos jours, on trouve encore des avocats et des avocates pour plaider le crime dit passionnel et donc les circonstances atténuantes pour le mari qui tue sa femme. C'est ainsi que chaque année en France, plus de 100 femmes sont tuées par leur mari ou ex-mari dans une atmosphère sociale généralisée indifférente, silencieuse et complice, parce que les victimes de ces meurtres, femmes ou filles, sont insignifiantes aux yeux de la société. Elles ne comptent pas ou si peu. Dans son livre très récent, intitulé « Classé sans suite », sorti en septembre 2023, très récemment, l'avocate Violaine De Philippis Abbat explique les raisons de cette situation catastrophique pour les filles et les femmes. D'abord, une tradition judiciaire qui longtemps n'a tout simplement pas envisagé les femmes comme des justiciables comme les autres, parce que sous-citoyennes, sous-hommes, véritable culture sexiste héritée des siècles précédents que nous venons de parcourir. Les rouages de notre société et donc de notre justice sont toujours imprégnés d'un patriarcat délétère. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, seuls 1% des viols aboutissent à une condamnation de l'agresseur et 80% des plaintes des femmes pour violence dans le cadre conjugal, je précise, sont classées sans suite, souvent par manque d'investigation. Pour la justice débordée, ces affaires de femmes maltraitées ou tuées par leurs conjoints ne sont pas prioritaires. Les affaires de vol de biens ou de destruction de biens matériels, de drogue aussi, sont bien plus importants aux yeux des personnes qui la rendent, cette justice, plus important que la vie des femmes. On est pourtant en présence d'un véritable fléau social qui devrait être traité comme tel par les pouvoirs publics, ce que demandent les féministes depuis des lustres en vain. Pendant tout le XIXe siècle, la jurisprudence ne fait que renforcer les rigueurs du Code civil contre les femmes. En 1826, la Restauration, c'est le rétablissement de la monarchie, supprime le divorce. Il ne sera rétabli qu'en 1884 et encore est-il très difficile à obtenir. Dans ce contexte d'antiféminisme institutionnel, certains grands penseurs progressistes pourtant sont en même temps violemment misogynes. C'est le cas de Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, l'auteur le plus célèbre de son temps, mais misogyne, sexiste et antiféministe, alors qu'il fait partie d'un courant de pensée qui propose la conception la plus radicale de la liberté et de l'égalité. Voici ce qu'il dit des femmes. La femme, dont l'esprit est essentiellement faux, ne peut être que ménagère ou courtisane. La femme, en elle-même, n'a pas de raison d'être. Elle est une sorte de moyen terme entre l'homme et le reste du règne animal. Proudhon restant un maître à penser respecté, cet antiféminisme a eu un fort impact négatif dans la société occidentale, contribuant en plus du code civil à retarder considérablement l'émancipation des femmes en France. Citons cependant une exception, un homme, Charles Fourier, 1772-1837, philosophe et économiste féministe, révolté par la misère des ouvrières. Il a cette formule célèbre, je cite, « En thèse générale, les progrès sociaux s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté et les décadences d'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes. L'extension des privilèges des femmes est le principe général de tout progrès social. » Mais contrairement à Proudhon, c'est Fourier, avec sa générosité et son appel au bonheur, qui est considéré comme un fou et un utopiste. Quelles seront les féministes de ce XIXe siècle dans ce si difficile contexte pour elles? Eh bien, parmi elles, nous en présentons une en particulier, Pauline Roland. Roland comme le prénom, avec un seul L. Parce qu'elle aussi, une oubliée de l'histoire. Benoît de Groult lui a consacré une biographie en 1991 aux éditions Robert Laffont sous le titre « Pauline Roland » ou « Comment la liberté vient aux femmes ». Ne pas la confondre avec une autre plus connue qu'on appelle Madame Roland, guillotinée en 1793 pour ses idées. Pauline Roland, elle aussi, est morte pour ses idées. Née en 1805 sous le règne de Napoléon Ier, elle avait 20 ans à la mort du comte de Saint-Simon en 1825. Saint-Simon, le fondateur du socialisme utopique, à l'origine d'une véritable école saint-simonienne qui fit de nombreux et nombreuses adeptes passionnés. Pauline est une institutrice enthousiasmée par les théories de Saint-Simon. Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, est un philosophe et économiste comme Fourier, un précurseur de la science sociale. Pauline Roland, pour appliquer ses idées de façon concrète, mena toute sa vie un double combat politique en faveur de l'instruction populaire et de l'égalité des femmes. Elle a vécu avec intensité les utopies de changement de société qu'elle a cru réalisables, passant du saint-simonisme au fouriérisme. Elle eut 3 enfants qui portèrent son nom et ne se maria pas, voulant vivre sa vie privée en fonction de ses principes, la liberté, l'indépendance et l'égalité homme-femme. En juillet 1830, lors de la révolution qu'on appelle les Trois Glorieuses, 3 jours de barricades sanglants parmi les républicains opposés à la politique réactionnaire de Charles X, Pauline avait 25 ans. Ici, je cite in extenso Benoît de Groult, qui s'adresse directement à Pauline dans l'introduction de son livre précité. 110 ans avant Simone de Beauvoir, tu avais eu l'audace d'écrire « Je ne consentirai jamais à épouser aucun homme dans une société où je ne pourrais pas faire reconnaître mon égalité parfaite avec celui auquel je m'unirais. » Et Benoît de Groult poursuit « Simone de Beauvoir a réussi à respecter son contrat d'indépendance. Mais toi, comment aurais-tu pu y parvenir en plein siècle des vertus bourgeoises et de l'hypocrisie des mœurs ? Tu as beaucoup travaillé pour le peuple, mais sans pouvoir voter pour tes idées, ni te faire élire, puisque tu réclamas en vain le droit de vote en 1848, 100 ans trop tôt pour les femmes. Pauline Roland est d'abord journaliste dans le journal féministe La Femme Nouvelle. Elle traduit des ouvrages en anglais, écrit des livres d'histoire pour les enfants, puis des articles dans les journaux d'opposition. En 1846, elle rejoint le Phalanstère. Phalanstère, P-H-A-L-A-N-S-T-E, une expérience de vie communautaire, créée à Boussac, dans la Creuse, où Pierre Leroux, un adepte de la solidarité humaine et des grands principes du socialisme, a fondé avec Georges Sand la revue indépendante et une imprimerie. Pierre Leroux, utopiste comme elle, va jouer un grand rôle dans la vie de Pauline. Dans la revue indépendante, elle s'attacha à dénoncer les conditions de travail des femmes. Elle se charge de l'éducation des enfants du Phalanstère et collabore aussi à un journal local, l'Éclaireur de l'Indre, l'Indre où vit Georges Sand qui admirait Pauline. En 1848, nouvelle exposition sociale, les ouvriers et ouvrières réclament la République. Un gouvernement républicain provisoire est installé avec Lamartine, un de nos grands poètes du XIXe siècle, et Louis Blanc, entre autres. C'est la Seconde République. La peine de mort est abolie, l'esclavage dans les colonies aussi, à la demande de Victor Schœlcher, et, ce qui est très important, le décret du 5 mars 1848 établit le suffrage universel masculin, en supprimant toutes les conditions de ressources pour le droit de voter, exclusivement masculin. Le Phalanstère, n'ayant pas survécu aux difficultés financières, contrainte de quitter Boussac, Pauline rejoint Paris et milite à nouveau dans les cercles féministes. Après l'échec de la Révolution de 1848, elle se bat contre les socialistes réactionnaires, dont sa bête noire, Proudhon, que nous venons d'évoquer. Un sujet tient particulièrement à cœur à Pauline, l'égalité de l'instruction aux enfants des deux sexes et de toute classe sociale. Elle voudrait que l'instruction fût confiée à l'État et non à l'Église, afin de rendre l'être humain authentiquement libre, même de critiquer l'éducation qu'on lui a donnée. Elle propose la généralisation des crèches pour soulager les femmes qui travaillent et commencer l'éducation dès le plus jeune âge. Pour cela, faire appel à des nourrices fonctionnaires, formées, instruites, alors que les mères ne le sont pas toujours. Pauline, dit Benoît de Groult, professe là encore des idées avancées, inacceptables pour son époque, et qui d'ailleurs aujourd'hui encore ne font pas automatiquement consensus. Le devoir maternel n'est pas l'unique devoir de la femme, insiste Pauline. Dans son projet, une importance particulière est attribuée à l'école maternelle de 3 à 6 ans pour donner à l'enfant le désir d'apprendre plutôt que de surcharger sa mémoire. C'était une vision très moderne de l'éducation, mais qui allait malheureusement à contresens du grand courant, du grand retour au cléricalisme qui s'amorçait en 1850. Dans cet esprit, elle a fondé en 1849 avec Jeanne de Rouen, modeste lingère, mais grande féministe elle aussi, plus politique que romantique. Nous avons fait son portrait sur cette antenne, Odile, si vous vous souvenez, le 16e de la deuxième série, le 21 février 2023, il y a un an. Elle a fondé l'Association des instituteurs et institutrices socialistes. Pauline partagea avec Jeanne de Rouen l'idée de créer ce qu'on n'appelait pas encore l'action syndicale, mais des unions ouvrières et des sociétés de secours pour les ouvrières sous-payées par rapport aux hommes, maltraitées et exploitées au maximum. Allant plus loin encore dans sa quête des droits civiques pour les femmes, Jeanne de Rouen préconisa les candidatures féminines pour les élections législatives de 1848. Elle avait sollicité Georges Sand et Pauline Roland, mais toutes deux refusèrent. Georges Sand considérait que c'était un enfantillage, et Pauline se méfiait de la politique en général. Le saint-simonisme et le fouriérisme ne sont pas des partis politiques. Seule candidate, Jeanne de Rouen fut moquée, copieusement insultée et empêchée de parler. mais c'était la première étape officielle des féministes de la première vague, nous dit Benoît de Groult, dans cette longue marche vers la conquête du droit de vote et d'éligibilité qui allait durer 100 ans, ce que nous verrons dans les prochains épisodes de ce série. Benoît de Groult remarque avec justesse que, je la cite, « l'échec de Jeanne de Rouen illustre celui de toutes les féministes qui ont cru pouvoir lier leur cause à celle de la classe ouvrière et se sont fait piéger par la bourgeoisie sur leur droite et le socialisme sur leur gauche. C'était une illusion. Révolutionnaire ou conservateur, monarchiste ou républicain, tous les hommes se retrouvent d'accord pour maintenir les femmes en tutelle, dit-elle. Pour avoir créé l'association des instituteurs et institutrices socialistes, Pauline Roland et Jeanne de Rouen sont arrêtées pour association illégale et emprisonnées pendant 6 mois à Saint-Lazare avec les voleuses, les prostituées et les avorteuses. À Paris, à nouveau, on érige des barricades de rue, mais cette révolte est violemment réprimée. Il y a 1 000 morts. Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, d'abord élu président de la Seconde République, est porté au pouvoir par son coup d'État du 2 décembre 1851. Proclamé empereur dès 1852, Napoléon III régna pendant 18 ans. Le régime autoritaire s'installe immédiatement. Toutes les libertés étaient ou supprimées ou annihilées. Liberté individuelle, liberté de la presse, liberté électorale. Le livre proscrit, la parole enchaînée, la pensée bâillonnée. L'opposition était complètement désarmée. 1 000 républicains et socialistes sont déportés à Cayenne ou en Algérie. Beaucoup s'exilent. Auguste Ledru-Rollin, Pierre Leroux, Victor Hugo à Jersey, puis Guernesey, les îles au large du Cotentin. Jeanne de Rouen à Londres, où elle mourra à 80 ans sans avoir revu la France. Pauline est arrêtée le 6 février 1852 et déportée en Algérie en juin. Prisonnière rebelle, jugée dangereuse pour les idées qu'elle risque de transmettre aux autres prisonnières, elle est transférée dans un cachot insalubre à Sétif. Les épreuves physiques ont raison de sa santé. Très malade, elle est graciée, mais le 16 décembre 1852, sur la route du retour en France, épuisée par le voyage en mer, où elle est restée couchée 6 jours sur le pont du navire balayé par les flots marins en furie, elle meurt de pleurésie à Lyon. Elle avait 47 ans. Elle fut enterrée à Lyon. 5 personnes suivirent son cercueil, dont son fils aîné Jean-François. À Boussac, l'école primaire porte son nom. Morte pour ses idées, ayant participé à l'élan émancipateur des Saint-Simoniennes, 2 sortes d'épitaphes lui furent décernées, les élogieuses par ses amis, admiratifs de son action, et les insultantes par les antiféministes, trouvant là une belle occasion de manifester leur haine des femmes actives politisées. Alors, en conclusion, je vais citer quelques épitaphes. D'abord, 2 épitaphes insultantes. Catul Mendès, poète. Ces femmes d'un exécrable héroïsme savent-elles seulement ce qu'elles font? Comprennent-elles pourquoi elles meurent? Charles Baudelaire, un poète qu'on étudie ou qu'on étudiait autrefois. Nous avons connu la femme auteur, la philanthrope, la prêtresse systématique de l'amour, la poétesse républicaine, fourriériste ou saint-simonienne. Et nos yeux, amoureux du beau, n'ont jamais pu s'accoutumer à toutes ces laideurs compassées, à toutes ces scélératesses impies, à tous ces sacrilèges, pastiches de l'esprit mâle. Maintenant, 2 épitaphes élogieuses. Jeanne de Rouen, son amie, dans l'Almanach des femmes, publié à Londres en exil. Pauline Roland est morte. Elle est morte après avoir subi les horreurs de la transportation en Afrique. Le martyre de cette sainte et noble femme est une honte de plus pour nos adversaires. Pauline, ta noble vie ne sera pas perdue. Nous te sentons en nous. Tu nous inspires. Tu nous soutiens. Adieu à ta dépouille mortelle. Mais à ton souvenir, jamais. Et le mot de la fin pour Victor Hugo dans Les Châtiments, recueil de poèmes satiriques écrits en exil. Voilà ce qu'il dit de Pauline. Elle ne connaissait ni l'orgueil ni la haine. Elle aimait, elle était pauvre, simple et sereine. Souvent, le pain qui manque abrégeait son repas. L'esprit le plus farouche aimait sa voix sincère. Le mal brisait sa vie et grandissait son âme. Grave, elle répétait, « Il est bon qu'une femme, dans cette servitude et cette lâcheté, meure pour la justice et pour la liberté. » Voilà, au mois prochain.
Oui.
Hein, ce sera le 5 mars.
Merci Jacqueline.
Merci.
Est-ce que vous voulez citer ces deux livres ?
Oui, ce sont les livres dont je me suis inspirée, « Femmes et République », un livre de la documentation française, et « Histoire féminine de la France » de Yannick Ripa, notamment.
Merci, très bonne journée. Au revoir.
Merci à toutes et à tous.